midi 35. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 101. Mon nom, c'est Yann Marceau. La grande reine du Nunavut est revenue.
Nunavik.
Nunavik. C'est à quelques différences, à quelques kilomètres, est-ce qu'on me dit?
Oui, on dirait 300 mètres.
Il y a une grosse baie entre les deux quand même.
C'est énorme, oui.
Nunavik!
Mais on ne posera pas la question à Denis, semblerait-il.
Et on a la reine de la politique qui est avec nous. C'est notre Antonine Iaccarini qui est là. On est content de te voir.
Oui!
T'es-tu contente de la voir en chair et en os? Là?
Ben
regarde, c'est
oui.
La reine du Nunavik.
Je la trouve pas bien bronzée pour une fille
non.
Qui est allée en Tanzanie, par
contre. Pauvre Denis! Ben, il va revenir sur la route. Là,
vos
Denis,
jokes sont tellement bonnes en passant 88-971.
Oui.
Merci de nous divertir.
Exact, exact. Comment ça va, Antonine? Il me semble que ta job, elle doit pas être facile ces temps-ci, là, parce qu'il faut que tu surveille qu'est-ce qui se passe au Canada, faut que tu surveilles qu'est-ce qui se passe au Québec, faut que tu surveilles qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, puis ça bouge à tous les jours. Ça doit être hallucinant d'essayer de se tenir à jour dans ce monde-là.
Oui, mais en même temps, il y a des gros dossiers qui prennent tellement de place
ouais.
Que j'avoue que je surveille moins les petites affaires ces temps-ci. Puis il n'y a rien de pire que de chercher des sujets. Donc,
ouais.
Mettons, tu as une chronique de prévu, puis
ouais.
T'es comme, il se passe à rien
cette
ouais. Semaine, ou tu sais, des fois la fin de semaine, l'été, Noël, cette année, c'est pas ça.
Mais t'es bonne parce que tu stimules tes réseaux sociaux. Des fois, je te lis sur Twitter, je me dis, ah, OK, elle est en train de se préparer son émission
ben
de ce
oui.
Soir.
Ben oui. Puis j'aime ça, aller chercher l'opinion des
ben
gens.
Oui. C'est le truc, là.
Ben oui, c'est le fun.
Exact. Là, qui est mon premier ministre du Canada? Là? C'est-tu Justin Trudeau? C'est-tu Mark Carney? C'est-tu... y est-tu légitime? Y est-tu illégitime, Mark Carney?
Ah,
qu'est-ce
question.
Qui se passe? Parce que là, mercredi, c'était hier, Trudeau était supposé d'aller voir la gouverneure pour dire « je démissionne ». Carney était supposé d'arriver avec ses 20 ministres, puis lui en disant « ben j'accepte le poste avec humilité ». Ça s'est pas fait. Là, on nous dit que ça va se faire vendredi.
Oui.
Fait que, techniquement, c'est Trudeau qui est encore notre chef.
Oui, ils sont okay. En transition. Okay? Donc, on a un chef non élu, Mark Carney, qui a été élu chef du parti de Justin Trudeau, donc le Parti libéral du Canada. Mais tu ne deviens pas automatiquement premier ministre. Il faut quand même qu'il y ait une passation. Il faut aller voir, parce que vous savez, hein, on a un roi, une reine, nous, au Canada, et son représentant,
oui.
Sa représentante plutôt, c'est la gouverneure générale. Donc, il faut lui demander la permission. D'habitude, elle dit oui. c'est rare qu'elle s'ostine. Donc, il va devenir premier ministre officiellement. Puis, devenant premier ministre, ben tout le conseil des ministres qui avait été choisi par Justin Trudeau, ça n'existe plus. Donc, il faut que le nouveau premier ministre se choisisse aussi en conseil des ministres. C'est ça qu'on va avoir demain matin.
Est-ce qu'il va avoir les 37 ou les 20 qu'il avait promis?
Moi, je pense que ça va être un peu plus que 20.
Ouais.
Mais en même temps, pensons-y. C'est sûr que t'es ministre. Tu étais dans le cabinet de M. Trudeau. Tu perds ton poste. Souvent, les gens vont être fâchés, ils vont être aigris, ils vont dire « je ne vais pas me présenter ». Bon, des fois, ils vont commencer à couler des affaires aux journalistes. Ça crée des problématiques de retirer des gens d'un conseil des ministres. Mais là, tout le monde le sait qu'on s'en va en élection. Donc, moi, si j'étais ministre puis je perdais ma limousine, comme on dit, mais ils n'ont pas de limousine, là, on dit ça comme une expression, je ne serais pas trop fâchée puis je me dirais « bon, écoutez, là, on s'en va en élection, c'est normal, il a fait une promesse aussi ». Chez les libéraux, on semble vouloir vraiment rendre la vie la plus facile possible à Mark Carney avant de partir en campagne, évidemment.
Ouais.
Donc, les gens devraient se tenir tranquilles.
Pensez-vous que ça va être sensiblement la même chose ou...
Les postes clés... Ça ne devrait pas beaucoup bouger. Là, tantôt, Radio-Canada a sorti la nouvelle comme quoi Stephen Guilbeault ne serait plus ministre de l'Environnement. En même temps, c'est un peu logique parce que Mark Carney a dit qu'il allait annuler la taxe carbone. C'est Stephen Guilbeault avec Justin Trudeau qui l'ont mis en place. Ça aurait été un peu bizarre que Stephen Guilbeault reste en poste. Ça aurait envoyé un drôle de message. Mais Mélanie Joly... François-Philippe Champagne, Dominique Leblanc, moi, je ne les changerai pas de place. Quoique, il y a une rumeur que François-Philippe Champagne pourrait prendre les finances. Il me semble que ça pourrait attendre après une élection si les libéraux gagnaient.
Pourrais-tu tester des gens? Mettons, tu testes une personne où tu n'es pas sûr si après des élections, ça peut être intéressant de le mettre dans un ministère. Puis là, tu dis, bon, j'ai quelques semaines, mois.
Non.
Non.
Bien, il peut mettre des gens à des postes. Là. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, mais ils n'auront pas le temps d'être testés. Là. On a une élection qui va être déclenchée. On pense que l'élection va avoir lieu fin avril, début mai. Il y a quand même de la pression pour le faire. Il n'est pas élu, Mark Carney.
Il ne peut pas faire de discours du trône non plus.
Non, non. Ça ne sert à rien. Donc, moi, je pense qu'ils vont déclencher avant que le Parlement... Pourquoi?
Parce qu'ils ne voulaient plus ça, eux autres, le Québec solidaire.
Ah, des discours du trône. Mais oui, mais là, ça, c'est toutes des traditions un peu passées date. Mais normalement, le discours du trône, s'il y en avait eu un ce printemps, ça aurait été un discours pratiquement préélectoral comme tel. Sauf que là, c'est quoi l'avantage pour Mark Carney de rouvrir le Parlement qui est fermé jusqu'à la fin mars, là, rappelons-le. Donc, vraisemblablement, une élection serait déclenchée avant que les oppositions aient l'occasion d'entrer en chambre et de poser des questions au gouvernement.
Parfait. Jusque-là, je te suis... qui continue de négocier avec le gros orange au bord?
Bon, il y a des gens de négociation qui sont en poste et qui ne bougeront pas. Ce n'est pas parce qu'on change de premier ministre que tout le monde bouge de son poste. Mélanie Joly, moi, je ne pense pas qu'il va la bouger de là. Il n'y a aucune chance. En plus, elle a appuyé Mark Carney, elle l'a aidé, elle a mis à sa disposition ses équipes pour faire campagne. Donc, elle devrait rester en poste. Si l'élection est déclenchée, les ministres restent ministres en élection. On n'est plus député, mais on est ministre. Un peu bizarre, mais en même temps, il faut assurer une maintenance quand il y a des élections. En temps général, on ne va pas prendre de grosses décisions comme ministre en période électorale. C'est simplement s'il y a des urgences ou pour que les choses de l'État là, suivent leur cours, mais on ne va pas prendre des grandes orientations, faire des grands changements, etc. Là, avec Trump, qui risque en plus de se mêler de notre campagne électorale,
exact.
Mélanie Joly, si elle demeure en poste aux affaires mondiales, elle n'aura pas beaucoup le temps de faire sa campagne. Heureusement, elle a un comté assez
assuré. T'es-tu à l'aise avec le fait que Doug Ford a eu un rendez-vous avec la Maison-Blanche? Moi, j'ai un gros malaise parce qu'il nous a mis dans le trouble comme pas possible. Il y en a qui disent « Ouais, mais là, c'est important de répondre et tout ça. » Mais le gros orange a dit « Ah ouais, toi, tu nous mets un tarif sur l'électricité de 25. » Bien là, ça va être 50 % pour tout le Canada qu'on va vous mettre sur l'acier et l'aluminium. Je veux dire, il est obligé de reculer, Doug Ford. Mais au moins, il a obtenu un rendez-vous, mais... Est-ce que Doug Ford est légitime d'aller négocier à la Maison-Blanche? Je trouve ça très particulier comme situation.
Ça l'est. C'est vraiment bizarre. Et ça démontre tout le vide de leadership qu'on a eu à Ottawa depuis la démission de Justin Trudeau et même un peu avant, parce qu'il était embourbé dans des crises pas possibles. Et ça fait en sorte que Doug Ford a décidé de remplir le vide. J'avoue que...
Pourquoi c'est pas Daniel Smith? Qui semble avoir une meilleure relation avec le gros orange.
Elle se cache derrière la tapisserie. Là,
pour
Daniel
pas faire
Smith.
De vagues, pour pas que ça lui nuise? Ou...
Parce qu'elle, elle ne veut pas que le pétrole, le gaz, soit affecté par ce qui se passe avec les États-Unis. Donc, elle essaie de passer sous le radar. Elle n'a pas une énorme solidarité envers les autres provinces ou face à Ottawa. Puis, il faut quand même se rappeler, on l'oublie de notre province, mais l'Alberta a aussi des fois des velléités d'indépendance et d'autonomie, du moins. Donc, toute cette situation avec les États-Unis pourrait faire en sorte qu'il y ait un gros conflit qui émerge entre l'Alberta et Ottawa. Puis, il faut pas exclure que ça pourrait terminer en, disons, en référendum en Alberta. Là. Je sais que je fais un peu de politique
fiction. Moi, j'aurais une belle stratégie, Antonine. Des fois, c'est juste dans ma tête, mais tu me diras que si ça a du bon sens. Pourquoi le Canada ne s'allie pas avec le Mexique et l'Europe dans le dossier? Pourquoi le Mexique agit seul? Pourquoi l'Europe agit seul? Pourquoi le Canada agit seul pour négocier avec les États-Unis? On pourrait faire une coalition. Pourquoi on est si faible?
Bon, la première des choses, c'est que les trois entités dont tu viens de parler avaient des intérêts et des approches extrêmement différentes avant que cette crise commerciale-là ne survienne. Le Mexique, dès que les menaces ont commencé, on a commencé tout de suite à donner ce que les États-Unis voulaient, là, parce que évidemment le Mexique aussi, c'est un pays qui est en position encore plus faible que nous là, par rapport aux États-Unis. L'Europe... Ils font dodo. Ça fait beaucoup de décennies que l'Europe fait des gros, gros dodos. Là. Donc là, il y a comme un réveil en ce moment, en plus avec ce qui se passe avec la Russie, parce que les États-Unis ont décidé de changer leur fusil d'épaule dans la question de la guerre en Ukraine. L'Europe... Ils font un peu le... Comment dire? On fait un peu de déni. Là. C'est comme, ça va passer, on n'a pas besoin de changer toutes nos politiques,
tout ce
etc.
L'Union européenne a été extrêmement occupée depuis l'invasion de la Russie en Ukraine aussi. Ils ont toutes revu leur façon agroalimentaire de s'alimenter, d'être capable d'avoir des
l'énergie.
Ressources.
L'énergie.
Fait qu'ils n'ont pas vu ça aller. Ils n'étaient pas prêts. Puis en plus, ils étaient un petit peu assis sur leur laurier par rapport à
ça. Mais avec une coalition, on aurait une plus grande force de frappe.
Mais ça prend du temps avant que ce genre de choses-là se mettent en place parce que, ben, premièrement, il y a la force de l'inertie. Là. L'alliance traditionnelle, le Canada, les États-Unis, ça allait de pair. Là. Donc, nous, déjà, on est comme dans une adaptation qui est sans précédent là, par rapport à tout ça. Puis là, je ne veux pas faire des grands cours d'histoire, mais tu sais, si on se ramène avant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été très long avant que l'Angleterre et la France, par exemple, se réveillent par rapport à ce qui se passait en Allemagne nazie. On était dans une stratégie beaucoup plus d'apaisement. On ne voulait pas se lancer dans une autre guerre. Il y avait eu la Première Guerre mondiale. Tout le monde était très, très fatigué là, de tout ça. Le continent européen était épuisé face à tout ça.
Sensibilité totale.
Donc, c'est normal que ça prenne du temps avant que les gens se mobilisent. Et si c'est pas dans ta cour directement, parce que la politique intérieure prend toujours le dessus sur la politique extérieure. Donc là, tout le monde est un peu comme des chevreuils sur l'autoroute. Là,
ils ont tous leurs enjeux. Parce que nous, oui, on a nos enjeux à l'interne, juste au Québec, par rapport à tout ce qui est interrelié avec ce qui se passe. Tu sais, je pourrais vous faire un parallèle avec la mine au Nunavik, où j'ai passé une journée complète dans un conseil municipal qui est super importante en ce moment à discuter avec le gouvernement du Québec parce qu'on veut un genre de développement de nos affaires minières pour être précurseur dans ce qu'on a dans nos sols. Mais ça cause beaucoup de problématiques avec la communauté. Mais ils savent en même temps qu'il faut avoir une économie qui roule par rapport à ça puis exploiter nos propres ressources avant que quelqu'un d'autre les exploite. Mais tout le monde a ses enjeux. Imaginez s'il y en a un enjeu au Nunavik. Après ça, on a nos enjeux au Québec, on a nos enjeux entre provinces, dans le pays complet. C'est sûr que
trouver,
tout le monde se regarde.
Trouver des intérêts communs, des fois, c'est difficile. Ça peut prendre du temps. Aussi, les organisations internationales sont affaiblies. Hein. Puis d'ailleurs, Donald Trump a contribué à les affaiblir. Il les décrédibilise régulièrement. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'OTAN, on a l'ONU. Là, il y a un G7 en ce moment, mais on n'est plus dans le même monde qu'on était il y a 10 ans.
Ça va changer quoi, le
G7? Ben en fait, c'est des occasions de justement de trouver des intérêts communs puis d'avancer sur des dossiers communs. Là, en ce moment, l'ambiance est très, 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 très lourde là, au G7. On n'est pas... L'Occident tel qu'on le connaissait il y a 5 ans, on est en train de redéfinir ce que c'est parce que les États-Unis se replient sur eux-mêmes alors que c'était un leader occidental. C'était un peu le phare, puis là, tout le monde suivait derrière les États-Unis. Et c'est comme ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est les États-Unis aussi qui ont développé, redéveloppé et reconstruit l'Europe avec le plan Marshall. Bon, je fais un grand cours d'histoire, mais tout ça pour dire que on est dans une adaptation qui est sans précédent. Puis je reviens une seconde sur Doug Ford avec tout ça. Donc moi j'ai au début la stratégie de l'homme fort là, puis de un peu provocatrice de Doug Ford qui va aux États-Unis qui dit je veux pas faire ça mais je vais vous couper le courant si vous continuez comme ça. Ça fait plaisir sur le coup, mais c'est pas très coordonné avec les autres provinces et avec Ottawa.
Legault avait dit la même affaire aussi. Là, je vais vous couper le courant.
Non, il l'a jamais dit.
Moi, je l'ai entendu en conférence de presse dire que ça pourrait être une possibilité.
Il peut pas l'exclure, mais il a dit à de nombreuses reprises que c'était pas sa préférence pour toutes sortes de raisons.
Ouais.
Mais que pour lui, l'aluminium et l'acier feraient beaucoup plus mal aux Américains. Ouais. Les chantiers seraient arrêtés, l'économie serait affectée. Et lui, son souhait au premier ministre du Québec, c'est que de l'intérieur des États-Unis, secteur économique, secteur automobile, secteur de la construction, se rebelle, entre guillemets, face à Trump et fasse comprendre de l'intérieur que ça n'a pas de bon sens comme politique.
Parce que pour ce qui est de Doug Ford, on le légitime en disant « oui, mais c'est le représentant des autres ministres du Canada ».
Bien, c'est ça. Fait que là, je ne veux pas faire de théorie du complot, mais quand Doug Ford a fait ça, Mélanie Joly, elle, sa réaction, ça a été de dire « bravo ». Donc, elle l'a dit, ah, c'est bien ce que Doug Ford a fait, on est derrière lui. Donc, je me suis demandé si on n'avait pas une petite stratégie de bon cop, bad cop qui était un petit peu arrangée avec le gars des vues.
Tu sentais ça comme une pièce de théâtre?
Antonine la conspi.
Oui, conspiration. Mais je pense que c'était pas nécessairement super bien attaché avec le Québec parce que les contre-tarifs sur l'acier et l'aluminium, c'est le Québec qui est le plus désavantagé par une telle politique. C'est pas nécessairement Ontario, là. Donc, puis, je veux juste dire une dernière chose sur Doug Ford. L'énergie, ça provoque des guerres, là. Le pétrole, le gaz. Il faut quand même faire attention. Les Américains, en ce moment, leur président, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas mettre au défi. C'est pas une bonne idée avec Donald Trump. Il ne faut pas s'effouer à terre, faire les paillassons, et c'est normal. Moi, je suis d'accord avec les contre-tarifs. Ça fait mal, mais...
C'est parce que ça fait mal à la population du pays qui fait des contre-tarifs. Puis c'est mal expliqué. Là. Il y a un article dans le Journal de Québec, c'est voici ce que ça va vous coûter. Voici pourquoi ça va vous coûter plus cher en raison de Donald Trump. Mais non, c'est en raison des contre-tarifs qui ont été mis en place par Justin Trudeau et les ministres.
Tout ça part quand même de Donald Trump. Il faut bien l'expliquer. Oui. Puis moi, je suis d'accord, même si je comprends qu'il y a des désavantages, puis il y a des gens qui sont contre la mise en application de contre-tarifs. Mais quand on tombe dans couper le courant,
c'est un step supplémentaire.
Oui, puis je veux juste vous parler d'un événement qui s'est passé dans les années 70 dans la ville de New York. Il y a eu une panne d'électricité qui a duré un peu plus de 24 heures à New York et le chaos s'est installé dans la ville. Pillage, violence, prise de contrôle par des gangs. Et il y a des quartiers à New York qui ne s'en sont jamais remis et on parle d'une coupure de courant de 28 heures.
Parce qu'après, ça s'en va sur l'humain. Fait que là, à quel point on veut être attaché à ça, puis ça pourrait encore plus faire élever les tensions à un genre de... plus qu'une guerre économique.
Quand Donald Trump dit qu'il va nous annexer, puis que là, il veut plus d'eau, puis là, il veut renégocier la frontière et tout ça, c'est sûr que d'avoir un besoin énergétique, ça risque aussi de militer là, dans sa tête avec ses idées mégalomanes.
Parfait. Hey, c'est lundi. Il va y avoir une partielle dans Terrebonne. Une partielle, ça coûte entre 600 000 et 700 000 $ à ce qu'on nous a expliqué. C'est dû au fait que Pierre Fitzgibbon a quitté. On avait rigolé un peu méchamment du nouveau candidat qu'on nous avait présenté en disant « T'as peu, là, tu passes d'un super ministre dans ce comté-là à quelqu'un qui n'a pas nécessairement beaucoup d'expérience politique. » C'était assez particulier comme présentation. Puis on s'est dit... je ne sais pas si tu étais là, Antonin, mais on s'est dit, est-ce qu'ils ont déjà abandonné ce comté-là en se disant...
Je pense que j'étais là, ça me dit quelque chose.
Oui, oui, oui.
Est-ce qu'ils ont déjà abandonné le comté en mettant ce gars-là en disant, bon, il va faire l'affaire pour nous représenter, mais d'après moi, on ne le gagnera pas, ce comté-là.
Sachant qu'on ne gagne pas, on met ce gars-là, maintenant.
Ça a l'air de quoi, là, actuellement, dans Terrebonne, là?
Bon, le PQ a des fortes chances de l'emporter.
Combien de pourcentage, maintenant?
Ben, disons, selon le site Québec 125, qui fait des projections à partir de toutes sortes de sondages, le PQ a 99 % de chances de l'emporter.
T'es en train de me dire que j'ai 1 % des chances de gagner?
Ah, c'est comme dans la cloche et l'idiot, j'adore. Ouais. Oui, donc 1 % de chances de gagner pour la CAQ. Il y a des gens qui font du terrain cette semaine, qui font du porte-à-porte, puis la réaction des gens qui ouvrent la porte aux militants de la CAQ, c'est pas nécessairement agressif, c'est pas nécessairement du dégoût et de la haine, mais on dit « Ah, pas cette fois-ci, pas cette fois-ci ». Donc, on verra, évidemment, c'est le jour du vote qu'on va en savoir plus. Mais c'est une élection partielle. Donc, les gens, des fois, ils se servent d'élection partielle pour envoyer des messages au gouvernement. L'argument
comme
de
Jean
dire...
Talon.
Comme dans Jean Talon. Puis, est-ce que la CAQ puis le PQ, disons, communique ça beaucoup, a vraiment besoin d'un 89e député? Tu sais, l'enjeu est moins élevé, c'est pas l'élection générale comme telle. Donc, si le PQ emportait l'élection partielle lundi, bien, premièrement, ça leur ferait un 5e député, une première femme, d'ailleurs. Leur candidate, Catherine Gentilcor, est une femme issue du milieu des affaires, d'ailleurs, une bonne candidature. Donc, ce serait intéressant pour le PQ, qui est encore premier dans les sondages, mais il y a tellement d'obstacles sur la route jusqu'en 2026 pour le PQ. Il continue de surfer cette vague d'amour là, de l'électorat, mais il va avoir un nouveau chef au Parti libéral du Québec cette année. La dynamique politique va continuer d'évoluer. Ce qui se passe avec les États-Unis, c'est pas hyper favorable à un discours indépendantiste. Ça va être plus difficile de convaincre les gens qu'un Québec indépendant peut tirer son épingle du jeu. Moi, je pense que oui, parce qu'on peut faire des alliances, effectivement, mais soyons réalistes, ça va être difficile là, de promettre un référendum en 2027.
Mais ça, on dit que les partiels, c'est pas super important, mais pourtant, à Québec, quand Paradis est arrivé en place, François Legault a été fessé, comme s'il avait reçu un coup de masse à la tête.
Tellement que le lendemain, il arrive à l'Assemblée nationale puis a changé d'idée sur un dossier énorme, celui du troisième lien, sur un coup de tête.
Je me souviens pas si c'est le soir même ou le lendemain, mais il avait dit « va falloir commencer à écouter les gens ». Ouais, comment ça, tu l'as
commencé
avant,
puis pourquoi il dit? C'est double faute,
ben,
là!
M. Legault a tendance à réfléchir à haute voix. Hein. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Donc, les partiels, c'est pas un impact aussi grand qu'une élection générale, mais souvent, on s'y intéresse beaucoup, on met la loupe, on essaie de suranalyser. Donc, ça finit par avoir un grand impact sur le narratif politique. Là, c'est sûr qu'avec ce qui se passe avec les États-Unis, on en parle beaucoup moins. Mais en temps normal, une élection partielle, ça retient beaucoup l'attention. Et c'est un peu comme un coup de sonde entre les élections générales.
Mais es-tu vraiment intéressante, là? Moi, on dirait que poser la question, c'est un peu d'y répondre.
Mais il y a quand même des gros dossiers.
C'est loin de nous.
Là. Oui, c'est ça. C'est pas à Québec. Le Jean Talon, c'était dans notre cour, fait que ça nous intéressait un peu plus. Mais élection partielle dans Terrebonne, il y a quand même des gros dossiers. Premièrement, ben, juste sur la question de l'indépendance, la CAQ, c'est un de leurs arguments. Ils attaquent le PQ en disant nous, on veut gérer une crise commerciale. Eux, ils veulent séparer le pays alors qu'il y a un vent de nationalisme canadien. Mmh. Il y a un dossier important aussi d'enfouissement de déchets qui est dans la même région. C'est le dossier Stablex, qui prend beaucoup, beaucoup d'espace, dont on entend moins parler à Québec, mais qui est quand même un dossier important. Transport collectif aussi dans les couronnes de Montréal, c'est un dossier qui retient beaucoup l'attention. Donc, c'est quand même une élection partielle intéressante, qui nous touche un peu moins à Québec, mais qui va avoir un impact sur l'ambiance politique, on va dire.
Antonin Iacarini, de ce temps-ci, tu gagnes bien ton ciel.
Oui,
merci. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité. On peut te dire un gros merci. Midi 54, on s'arrête, puis on revient après avec Mathieu Thomassin, chroniqueur automobile.